Actes chapitre 3. Donc la dernière fois que j'avais commencé à prêcher sur ce chapitre, on avait vu plusieurs notions que je vais rappeler brièvement. Donc Actes chapitre 3, on avait vu notamment que le verset 2 nous montre le système de sécurité sociale normal, on va dire biblique, c'est-à-dire un homme qui ne peut pas travailler, qui donc demande l'aumône. Et c'est un système qui est basé sur la miséricorde des gens. Donc les gens donnent volontairement à quelqu'un d'infirme. Et donc c'est différent du système français qui est basé sur, qui n'est pas basé sur le volontariat, on va dire, qui est plutôt basé sur l'obligation de donner. Voilà. Donc ces deux systèmes différents, ça vaudrait vraiment la peine de faire un message entier. Donc on avait vu ça la dernière fois. On avait vu aussi, à cause du verset 6, donc, que je vais lire. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc à partir du verset 6, on avait vu que Pierre, les apôtres et nous autres, non, les chrétiens aussi, on n'a pas nécessairement beaucoup de richesses matérielles, mais on a quelque chose qui est d'une valeur immensément supérieure, c'est-à-dire l'évangile, et on peut apporter aux gens la guérison spirituelle puisqu'on est les porte-parole de Jésus le Sauveur. Donc c'est d'une valeur infiniment supérieure à l'argent et l'or, les richesses matérielles. Donc c'était encourageant pour nous. Et on avait aussi vu, donc là on a un homme qui est impotent, c'est-à-dire handicapé dès sa naissance. On avait vu une première raison pour laquelle le Seigneur permet qu'il y ait certaines personnes qui sont comme ça handicapées dès leur naissance. La raison qu'on avait vue, donc une des raisons possibles donc, qu'on avait vues la dernière fois, c'était que pour approuver le message des apôtres. Donc, en fait, quand les apôtres opéraient des guérisons miraculeuses, ou quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même opérait des guérisons miraculeuses, c'était pour marquer l'approbation de Dieu sur les apôtres. C'était la preuve qu'ils étaient bien légitimes en tant que le Christ, d'abord, et ensuite ses apôtres. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va reprendre le passage et on va voir trois raisons supplémentaires pour lesquelles le Seigneur peut permettre des infirmités, et parce qu'ici on a quelqu'un qui est infirme, mais dans un contexte plus large, pourquoi le Seigneur permet que nous soyons en difficulté? Parce qu'il y a des gens qui naissent, par exemple dans une famille où c'est plus difficile, donc c'est pas de leur faute, ou alors on est infirme, aveugle, on a différentes calamités qui sont sur nous de par déjà notre naissance dans le monde. Et on va voir trois raisons potentielles pour ces handicaps, ces difficultés que nous rencontrons. Donc je vais commencer donc à lire, acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e. Et il y avait un homme impotent dès sa naissance, donc handicapé de naissance, c'est pas de sa faute, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean, lui dit, « Regarde-nous. » Avec autorité, j'aime bien quand il dit ça, juste ça, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Donc là, au verset 5, on a la première raison que je trouve pourquoi Dieu permet des infirmités comme ça, même une infirmité de naissance. La première raison que je vois ici, c'est que la personne qui est infirme de naissance sera plus humble, parce que cette personne-là est habituée à ne rien pouvoir faire par elle-même. Là, le monsieur, il ne peut même pas aller lui-même à son lieu de mendicité. On est obligé de le porter pour l'emmener à son lieu de mendicité. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. En fait, le monsieur s'attend à recevoir quelque chose d'eux. Parce que dans sa vie, il est habitué à recevoir des choses. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc la première raison pour laquelle on peut avoir un handicap, c'est qu'on nous rende plus humbles et donc plus réceptifs à l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas... L'évangile et le salut, le fait d'accéder au paradis, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose que le Seigneur fait. Et c'est quelque chose que l'on doit recevoir gratuitement de la part du Seigneur. Donc le monsieur qui est dans la difficulté, qui a un handicap, en fait, il est déjà préparé à recevoir quelque chose. Il sera plus humble pour recevoir l'évangile. Donc allez, si vous voulez bien, en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Parce que le monsieur qui a une infirmité dès sa naissance, où on peut étendre ça à toutes nos difficultés, à des difficultés, voilà, des grosses difficultés dans sa vie, sera logiquement plus pauvre, plus humble. Parce que, en fait, bon, il n'y a pas de problème à être riche. C'est, a priori, il n'y a pas nécessairement de problème à être riche. Mais il y a un danger qui est soulevé donc pour les personnes riches, justement dans Marc chapitre 10. On va lire les versets 23 et 24. Alors Jésus, donc Marc 10, versets 23 et 24. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. C'est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. C'est pas parce que on peut pas être sauvé si on est riche, parce qu'on peut très bien être riche et être sauvé. C'est tout à fait possible. Si on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Mais au verset 24, il nous dit, voilà, pourquoi c'est difficile que des riches entrent dans le royaume de Dieu? Pourquoi c'est difficile que des riches soient sauvés? Verset 24. Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème, ce n'est pas les richesses en soi, mais le problème, c'est qu'un riche aura tendance à se confier dans ses richesses. Or, pour être sauvé, il faut se confier dans le Seigneur Jésus, dans l'œuvre du Seigneur Jésus, seul. Donc, si on se confie, la personne qui est riche aura plus tendance à se confier dans ses richesses et dans ses propres compétences, dans sa propre sagesse, dans sa propre force. C'est pour ça que c'est difficile pour un homme riche de croire l'Évangile, tout simplement, parce qu'il a l'habitude de se confier dans ses richesses. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles cet homme-là a été infirme de naissance. Enfin, au moins, comme ça, il est pauvre. Et il a plus de facilité, on va dire, il aura plus de facilité à être humble et à recevoir l'Évangile. Allons ensemble à Proverbe 28, Proverbe 28, verset 11. Proverbe 28, 11, bon, je vais lire tout de suite. L'homme riche pense être sage, mais le pauvre qui est intelligent le sondera. Donc l'homme riche pense être sage, ben, c'est logique, il ne devrait pas forcément penser qu'il est sage, mais c'est quand même logique qu'il ait cette pensée-là, parce qu'il a toutes ses richesses, il a l'impression que c'est lui-même qui s'est acquis toutes ses richesses, donc il pense être sage, c'est comme ça. Et c'est un problème. Proverbe 18, verset 10, 11, 12, Proverbe 18, verset 10, 11, 12, c'est un problème. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court, et il y est dans une haute retraite. Donc le nom de l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, il est notre refuge, d'abord pour le salut et ensuite pour tout le reste, pour toute la vie. Verset 11, les biens du riche, donc les possessions du riche, sont sa ville forte. Le riche, voilà, on le voit là, le riche, il se confie dans ses richesses. Et comme une haute muraille, attention, dans son imagination. Les biens du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille, seulement dans son imagination. Donc, c'est en fait la vérité, c'est que lui, il s'imagine que ses richesses vont le protéger, vont le sauver. Et en fait, c'est uniquement dans son imagination. Verset 12, et là c'est connecté, le verset 12 donc suit le verset 11, c'est, à mon avis, c'est pas un hasard. Le cœur de l'homme s'élève, donc là c'est l'orgueil. Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive. Mais l'humilité précède la gloire. Donc c'est pas un hasard si le verset 12 est juste après le verset 11, parce que le verset 12 nous parle de l'orgueil. Et le verset 11 nous parle du riche qui croit que ses possessions sont un refuge pour lui. Donc c'est ça le problème du riche. Le problème du riche, c'est pas qu'il est riche. S'il y a des riches parmi nous, si vous êtes riche, tant mieux. Gloire à Dieu pour ça. Remercions le Seigneur pour ça. Mais le riche peut avoir un problème parce qu'il n'est pas humble, il est orgueilleux, il risque d'être orgueilleux. Et donc il aura peut-être plus de difficultés à se convertir s'il est orgueilleux. Donc c'est la première raison pour laquelle le Seigneur permet des infirmités. Et dans ce livre-là qu'on a dans la bibliothèque, il y a un témoignage qui est donné justement d'un monsieur qui... je voulais le citer. En fait, c'est un monsieur qui ne croyait pas en Dieu, qui était orgueilleux, qui était endurci contre Dieu. Et il lui arrive un accident dans une mine, et je crois qu'il a le dos cassé, enfin, en tout cas il devient handicapé. Et voilà ce qu'il dit au pasteur. Donc le monsieur qui est handicapé, voilà ce qu'il dit au pasteur. « Vois-tu, j'ai l'impression que je n'en ai plus pour bien longtemps, mais je sais à présent où j'irai lorsque je fermerai les yeux. » Parce qu'il a cru en Jésus-Christ, donc il est sûr d'aller au paradis. « Quand je me trouverai devant Dieu, je tomberai à ses pieds et je lui dirai merci de m'avoir brisé la colonne vertébrale. » Un peu étrange quand même. Nous, bon, on a des infirmités, on ne dit pas forcément merci à Dieu. Mais là, le monsieur, il dit « Quand je verrai Dieu, je lui dirai merci de m'avoir brisé la colonne vertébrale. » Le pasteur répond « Oh, que dis-tu là, merle ?» Il se contenta de sourire, puis il m'expliqua « Si cela ne m'était pas arrivé, j'aurais continué sur ma mauvaise voie, loin de Dieu, jusqu'en enfer. Il a fallu que Dieu emploie les grands moyens pour me conduire à son Fils, mon Sauveur. » Oui, ça a été dur. Donc évidemment, on nie pas le fait que les infirmités, c'est très désagréable, évidemment. Oui, ça a été dur, mais c'était pour mon bien, pour mon salut éternel. Voilà. Donc, s'il faut en passer par là, il vaut mieux que la personne soit sauvée, quitte à ce qu'elle soit infirme dans sa vie. On va continuer à lire Actes chapitre 3. Continuer à lire à partir, donc on va commencer au verset 6. Actes chapitre 3, recommençons au verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc là, il le guérit, guérison miraculeuse. Là, on voit le pouvoir de Dieu en action. Verset 8, « Et sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » J'aime beaucoup l'attitude de ce monsieur qui vient juste d'être guéri. Donc on pourrait l'appliquer aussi à quand quelqu'un vient d'être sauvé, quand quelqu'un est sauvé. Le monsieur, il marche, parce que maintenant il n'est plus infirme, il a été guéri, il marche. Et en plus, il saute. Il est content. On voit ça quand les gens sont heureux, ils sautent. On voit ça des fois, les enfants, ils sautent. Et bien, c'est un exemple pour nous. Il saute et il loue Dieu. C'est un exemple pour nous, quand on est sauvé, quand on est guéri spirituellement, on devrait avoir cette attitude-là. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que voilà. Lui, il a été guéri de son infirmité. Parmi nous, il y en a qui sont peut-être encore dans des infirmités, dans des difficultés. Ce n'est pas forcément facile de sauter de joie tout le temps, mais voilà, c'est une bonne attitude. Et là, on va lire donc les versets 9, 10, 11 qui communiquent une même idée. Donc versets 9, 10, 11. « Et tout le peuple le vit, qui marchait et qui louait Dieu. Et ils reconnurent que c'était le même qui se tenait à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme l'impotent qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut à eux au portique dit de Salomon. » Donc là, dans ces trois versets, on a une idée qui est répétée trois fois. Alors au verset 9, on a voilà, « Tout le peuple le vit ». Donc ça attire l'attention, cette guérison miraculeuse attire l'attention sur d'abord cet homme qui a été guéri, et ensuite les apôtres, et après évidemment ça doit attirer l'attention sur Jésus. Mais au verset 9, on voit que tout le peuple le voit. Au verset 10, on voit qu'ils reconnaissent que c'était le même qui demandait l'aumône, et maintenant il est guéri, donc ils reconnaissent qu'il y a eu un changement. Et en plus, ils sont remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et au verset 11, on a tout le peuple étonné, puisque l'impotent, il continue à suivre les apôtres. Hein, c'est une bonne attitude, puisqu'il continue à suivre. C'est ce qu'on devrait faire nous aussi, d'ailleurs, quand on est sauvé, on devrait continuer à rester. Bon, il n'y a plus d'apôtres, mais on peut rester avec la Bible et avec l'église locale. Donc le monsieur, il a la bonne attitude, il ne quitte pas les apôtres. Et tout le peuple est étonné. Voilà, donc en fait, trois fois dans ces trois versets, le peuple voit ça et en fait, ça suscite l'attention sur le miracle qui a été fait et donc sur les gens qui ont fait ce miracle. Et après, on verra que ça va attirer l'attention sur Jésus. Donc, c'est mon point numéro 2. Pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait des infirmes? Bon, c'est pas de leur faute. Voilà, ils ont des calamités qui sont sur eux. C'est de la faute à personne. C'est comme ça. Enfin, c'est l'état général du monde, du péché qui fait qu'il y a des maladies et des blessures. Pourquoi le Seigneur permet que ça continue? Eh bien, pour que ça puisse susciter l'intérêt des gens. Puisqu'on sait et on a vu, même nous on l'a vu, on ne l'a pas vu de nos yeux, mais on l'a lu dans la Bible, on a lu que le Seigneur Jésus fait des miracles, ça suscite notre intérêt pour rencontrer et connaître cette personne-là. Parce que si je et puis on est tous plus ou moins infirmes, hein, bon là c'est pas grand-chose les lunettes, hein, voilà. Mais on est tous plus ou moins infirmes, on a tous plus ou moins des difficultés dans nos vies, un bras cassé ou des choses comme ça. Donc on devrait avoir, puisqu'on sait que le Christ guérit les gens, et on sait qu'il nous guérira nous aussi un jour à la résurrection, ça devrait nous donner envie de le rencontrer, d'abord pour être sauvés, parce qu'on sait qu'il pourra nous guérir de tous nos malheurs, et une fois quand on est déjà sauvés, ça devrait nous donner envie encore plus de le servir, par gratitude, parce qu'on sait que cette guérison-là, il va l'opérer sur nous aussi à la résurrection, comme il est dit, donc je vais juste le lire dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc on sera tous guéris physiquement à la résurrection. Nous ressusciterons incorruptibles. Et c'est ça, ça devrait nous donner envie de plus adorer le Seigneur Jésus. Donc ça attire l'attention et ça suscite l'intérêt plutôt. Comme il est dit en Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc Jésus guérit tout le monde. Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc on voit que tous ces miracles suscitent un grand intérêt parmi le peuple et ça devrait aussi susciter notre intérêt, susciter aussi l'intérêt des gens qui ne sont pas encore sauvés pour qu'ils aient envie de rencontrer cet homme, Dieu fait chair, Jésus-Christ. Et si vous voulez bien aller en Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, en fait on a une histoire qui est similaire. C'est un homme qui est aveugle de naissance. Jean chapitre 9, on va lire les versets 1, 2, 3. Un homme qui est aveugle de naissance. Donc, Jean chapitre 9, verset 1. « Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché ? Celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle ?» Ça, c'est rigolo parce que les disciples, ils lui demandent, même si c'est lui qui a péché, mais il est né aveugle, ça ne peut pas être lui qui a péché, puisqu'il est né aveugle. Parce que quand on est bébé, on ne pêche pas avant d'être né. Et les disciples, ils ne comprennent pas, ils posent cette question-là, c'est rigolo, parce qu'ils ont même l'idée que ça peut être de sa faute à lui. Alors qu'il est né aveugle, ça ne peut pas être de sa faute. Bon, on peut peut-être penser que ça peut être de la faute de ses parents. Enfin bon. En tout cas, ce n'est pas ça. Au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et donc c'est pour pouvoir montrer la puissance de Dieu sur cette personne, donc susciter l'intérêt envers Jésus-Christ, c'est-à-dire que la personne qui guérit un tel homme, parce qu'ensuite ensuite on le voit, Jésus le guérit miraculeusement, donc ça nous donne envie de l'adorer, d'adorer Jésus et de croire en lui. On voit d'ailleurs que cet homme-là, au verset 17, ils dirent de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Donc en fait, le fait que Jésus ait guéri cet homme nous donne un indice que Jésus est à prendre au sérieux. Le monsieur, il dit, « C'est un prophète. » Il n'a pas encore cru que Jésus est le Fils de Dieu, mais déjà, le monsieur qui a été guéri se rend compte qu'il y a quelque chose derrière Jésus. Jésus est à prendre au sérieux. Voilà, c'est ça. Jésus est à prendre au sérieux. Et ensuite, versets 31, 32, 33, le monsieur, il parle encore, il dit « Or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, surtout au verset 32, c'est vrai que c'est un tel miracle de rendre la vue à un aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle, que il y a forcément Dieu derrière. Et c'est ça le but. Justement, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des infirmes, c'est justement pour montrer que quand il a fait des guérisons, c'est forcément Dieu, c'est forcément quelque chose de divin derrière. Et là, au verset 33, le monsieur n'est toujours pas converti, mais ensuite, au verset 35, voilà, Jésus il le rencontre, au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Donc là, il est prêt à croire, parce qu'il a déjà pris Jésus au sérieux, vu qu'il y a eu une guérison miraculeuse, il a déjà pris Jésus au sérieux, et il ne demande plus qu'à le rencontrer pour croire en lui. « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» C'est magnifique, il est prêt à croire, il suffit juste qu'on lui donne à boire l'eau de la vie, et puis de la boire sans problème. Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Voilà. Belle conversion, j'aime beaucoup. Donc, la deuxième raison pour laquelle il peut y avoir des infirmes et tout ça, c'est pour susciter l'intérêt envers Jésus. C'est pour qu'on ait envie de le connaître et d'être sauvé par lui. Voilà. Parce qu'il est bon. Donc, on va continuer dans Actes chapitre 3. On va continuer à lire. C'était arrêté. Donc, on a lu le verset 11. On va lire le verset 12. Donc le peuple est étonné, le peuple est rempli d'admiration, regarde les apôtres et tout ça. Verset 12. Mais Pierre, voyant cela, donc voyant que tout le monde s'intéresse aux apôtres, à lui-même et à Jean, mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. » Donc là, Pierre dit, « Ok, vous m'admirez, mais pourquoi vous m'admirez moi, comme si c'était par ma puissance d'homme que j'ai fait ce miracle ?» Et ensuite, au verset 13, il commence, il dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc, il dit, voilà, en gros, il dit, « c'est pas grâce à moi, c'est pas moi qui ai la puissance, c'est Dieu. » Et après, il va prêcher l'Évangile. Ça, c'est très important, c'est mon troisième point. C'est... Pourquoi le Seigneur permet des infirmités, des difficultés dans nos vies? Ce sera, en tant que donc, chrétien converti, ce sera pour éventuellement nous rendre aussi plus humbles, qu'on puisse donner gloire à Dieu. Parce que le problème c'est que le réflexe naturel des hommes, comme ici on le voit en Actes chapitre 3, on le voit, le réflexe naturel des hommes, c'est d'adorer un homme. C'est de se confier en l'homme. Et le Seigneur, il dit, c'est pas du tout une bonne attitude. Oui, le Seigneur ne veut pas qu'on se confie en l'homme. Il dit en Ésaïe chapitre 2, verset 22, « Cessez de compter sur l'homme qui n'a qu'un souffle dans ses narines, car quel cas peut-on faire de lui ?» Cessez de compter sur l'homme, arrêtez de compter sur l'homme, puisqu'il n'a qu'un souffle dans ses narines, ça veut dire sa vie est fragile. La vie de l'homme est fragile. L'homme est fragile. Donc arrêtez de vous confier dans l'homme. Mais le réflexe naturel pour les gens, c'est d'adorer les hommes. On voit un exemple similaire en Actes chapitre 14. C'est Paul et Barnabas donc, qui sont à Lystra. Donc Actes 14, je vais commencer à lire verset 8 à 15. Or, il y avait à Lystra un homme impotent de ses jambes qui était assis. Il était perclus dès le sein de sa mère et n'avait jamais marché. Donc exactement pareil, même scénario. Un homme handicapé dès sa naissance. Il écoutait parler Paul qui, ayant arrêté les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Aussitôt, il sauta et marcha. Donc pareil, même scénario, il saute. Exactement pareil qu'en acte 3. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria et dit en langue lycaonienne, des dieux, donc avec un petit d, donc des dieux, des faux dieux, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. C'est un peu tragique parce que quelque part, les hommes, ils sont comme ça. Ils voient un homme qui fait quelque chose de waouh, super, un miracle, et ils veulent adorer cet homme-là. Et là, je vais pas finir de lire tout ça, mais Paul et Barnabas ont la bonne attitude. Juste, je vais lire verset 15. Ô homme, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous nous prenez pour des dieux? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités. Donc la vanité, c'est de se confier en l'homme ou de se confier dans les idoles. C'est surtout des idoles, voilà, mais les hommes peuvent être des idoles. Et que vous vous convertissiez au Dieu vivant et qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Donc après, voilà, après ils prêchent l'évangile. Mais c'est le même scénario en acte 14 qu'en acte 3. Les gens veulent adorer l'homme. Et en acte 3, Pierre, il a la bonne attitude, il dit, au verset 13, il dit, verset 12, il dit, voilà, c'est pas par notre propre puissance, verset 13, il dit, le Dieu, il va parler de Dieu et de l'Évangile. Donc, Pierre a la bonne attitude, Paul a eu la bonne attitude, en acte 14, mais peut-être que nous, si on était trop en bonne santé, trop sage, trop en bonne santé, trop fort, trop doué, peut-être qu'on ne rendrait pas gloire à Dieu et que du coup, les gens pourraient admirer un homme. Par exemple, s'il y avait un pasteur qui prêchait bien, entre guillemets, parce qu'il a beaucoup d'éloquence et qu'il trouve des choses, il a plein de petites histoires intéressantes et tout ça. S'il y avait un pasteur qui était trop éloquent, ça pourrait faire que les gens vont adorer cet homme et pas Dieu. Et c'est un problème. C'est un problème. Donc, c'est peut-être pour ça que le Seigneur envoie les infirmités sur chacun d'entre nous, hein, parce que chacun d'entre nous, on peut être sujet à l'orgueil. C'est ce qui est développé donc, en 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, si vous voulez y aller. Je vais commencer à lire au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Donc là, on va voir comment l'apôtre Paul était humilié par une infirmité dans sa chair. Donc, verset 3, « Et je sais que cet homme, verset 4, fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Je puis me glorifier d'être cet homme-là, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon dans mes infirmités. » Donc, en fait, Paul, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a eu de telles révélations tellement, tellement extraordinaires qu'on ne peut même pas en parler tellement c'est extraordinaire. Et à cause de ça, il pourrait, comme on dit, faire le malin. Parce qu'il a tellement de belles révélations de la part de Dieu, il pourrait user de ça pour avoir de l'influence et pour se glorifier lui-même. Verset 6, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il m'entend dire. » Donc, afin que personne n'ait une trop haute opinion de l'homme, de l'apôtre Paul. Et voilà, surtout le verset 7 qui a rapport au sujet. « Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. » Donc pour me souffleter, ça veut dire pour me donner une petite tape, comme un petit rappel, un rappel. J'ai cette infirmité, donc je ne suis pas puissant, je ne suis pas fort, puisque j'ai cette infirmité. Et Paul, il le dit d'ailleurs, on l'a vu en acte 14, quand il parle aux gens de Lystra, il leur dit, nous sommes des hommes comme vous, avec des infirmités. Nous sommes des hommes comme vous, avec des infirmités comme vous. Et là, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, on voit que Paul, il a été affligé d'une infirmité dans la chair, donc je crois que Paul avait de très mauvais yeux. Je crois que c'était ça, son infirmité. Et la raison de ça, c'est pour que Paul ne s'élève pas trop, ne devienne pas orgueilleux à cause de l'excellence de ses révélations. Et chacun d'entre nous, ça peut être une raison pour laquelle on a des difficultés, on a des misères, des infirmités. C'est pour qu'on reste humble et qu'on donne gloire à Dieu en tout temps. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28 et 29. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28 et 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est, conservé faible par le Seigneur. Ce n'est pas une mauvaise chose si on est conservé faible dans la chair par le Seigneur. Faible dans la chair. Puissant, il faut qu'on soit puissant en esprit, mais faible dans la chair. Pourquoi ? Pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. Comme ça, on ne pourra pas dire, c'est grâce à moi que j'ai converti tant de personnes, c'est grâce à ma sagesse, c'est grâce à ma force. Non, parce que le Seigneur nous garde dans l'infirmité. Plus ou moins. Et au chapitre 2, donc 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques, c'est-à-dire des discours persuasifs, des discours qui vont être habiles pour pouvoir vous susciter chez vous les émotions. Non, c'est pas ça. Ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, donc l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul était dans la faiblesse. Voilà pourquoi Paul n'a pas usé de sa propre sagesse humaine. C'est pour que les gens mettent leur foi non pas dans Paul, non pas dans la sagesse de Paul, mais dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Et voilà. Donc la troisième raison pour laquelle les hommes peuvent être infirmes. Donc en conclusion, je vais rappeler trois raisons possibles. Après, il y en a peut-être d'autres. Il y a aussi des gens qui se sont fait agresser, donc ils sont infirmes. Bon, là, c'est par méchanceté que quelqu'un leur a fait subir ça. Mais trois raisons possibles que je vois pour nos infirmités, nos difficultés. Première raison, c'est pour humilier, pour que les gens soient plus humbles et plus réceptifs à l'Évangile. Deuxième raison, c'est pour susciter l'intérêt envers le Christ. Et troisième raison, c'est pour humilier les chrétiens qui sont déjà convertis, pour rendre plus humbles les chrétiens qui sont déjà convertis, afin que justement, on puisse susciter l'intérêt non pas envers les chrétiens, mais envers le Christ. Voilà. Et ensuite, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, même 21, enfin jusqu'à la fin du chapitre, il prêche l'Évangile. Donc voilà, c'est à ça que ça doit servir, en fin de compte. Cette guérison miraculeuse, elle doit servir à attirer l'attention pendant un court moment sur les apôtres, et après, tout de suite après, on bascule l'attention, on dit non, c'est pas moi, c'est Jésus. Et ensuite, on prêche l'Évangile. Donc là, il développe l'Évangile longtemps. C'est surtout ça qui est très important. L'important, c'est de prêcher l'Évangile à la fin. Voilà. Parce qu'on parle des miracles et tout ça, mais ça doit servir à prêcher l'Évangile. Voilà. Amen. Donc, merci à tous pour votre attention. À bientôt.